Le journal, bonjour Hélène Roussel.
Bonjour Eric.
À la une ce matin, toujours la grève contre la réforme des retraites. Avec une question ce matin, y aura-t-il des trains pour Noël? Le président de la SNCF lance un appel à la trêve et les cheminots renvoient la balle au gouvernement. Les autres titres, Hélène.
Gros grain, grosse crue dans le nord et dans le sud-ouest. 16 départements en alerte orange ce matin. Bayonne, sous l'eau, on fait le point dans un instant. Le Royaume restera-t-il uni après la victoire de Boris Johnson? Hier, les Écossais demandent un référendum. Et puis la loi anti-gaspi en examen à l'Assemblée nationale. Bientôt terminé l'étiquette caisse dans les poches.
Les invités à partir de 8h20. Question ce matin sur les conflits qui s'enlisent avec deux invités. Patrick Stefanini, ancien directeur adjoint au cabinet de Matignon en 1995. Invité également le sociologue Jean-François Amadieu. Il est spécialiste des mouvements sociaux.
France Inter. Nous en sommes au 10e jour de grève contre la réforme des retraites pour ce week-end. Métro, bus, RER au compte-gouttes en région parisienne. Côté SNCF, un TGV sur 4 en circulation, 3 TER sur 10. Une forte mobilisation attendue dans les rues ce mardi et la grande inconnue pour les départs en vacances. Le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, demande aux cheminots de faire une pause pour Noël.
Je suis persuadé que le devoir d'une grande entreprise de service public est d'être au rendez-vous des attentes des Français. C'est pourquoi je m'adresse à tous les cheminots et aux organisations syndicales pour nous retrouver ensemble au service de tous les Français. Je demande à ceux qui sont dans le mouvement de réfléchir à faire une pause pendant les fêtes. J'ai récemment pris une décision courageuse de décider de faire une pause des réorganisations pendant le premier semestre 2020. J'ai su faire preuve de pragmatisme et d'écoute. Je vous propose d'en faire de même. J'espère que ce message sera entendu.
Eh bien, la réponse, la voici, celle d'un syndicat réputé pourtant réformiste, la CFDT, avec Rémi Aufrère-Privel, secrétaire général adjoint de la CFDT Cheminot.
Il est en service commandé par le gouvernement. Nous considérons donc que le terme de trêve est très mal choisi, puisque chacun sait qu'on ne peut pas suspendre une grève pour la reprendre ensuite, sauf à accepter l'illégalité du respect du préavis de grève. L'objectif, ce n'est pas de gêner ce déplacement formidable et familial et convivial qui rapproche tous les Français, toutes les familles pour le 24 décembre. L'objectif, c'est que ces 8 à 9 jours qui nous restent nous servent à négocier et à faire revenir surtout le gouvernement à la table des négociations, parce qu'en l'occurrence, pour le moment, il s'en est éloigné.
Rémi Aufrère-Privel de la CFDT Cheminot chez nos confrères de France Info. Des milliers d'usagers en rade, c'est autant de consommateurs qui ne vont plus dans les magasins et des commerçants qui voient, comme l'an dernier avec les gilets jaunes, fondre leurs chiffres d'affaires comme neige au soleil. Mais c'est là qu'on mesure à quel point la réforme des retraites, avec un régime universel par points et un âge pivot, cristallise l'inquiétude bien au-delà des cheminots ou des enseignants, quand même les commerçants s'y mettent. Gérald Gauthier, secrétaire fédéral de la section commerce de Force Ouvrière.
Tous les salariés du commerce, effectivement, sont concernés. On ne parle pas aujourd'hui que des régimes spéciaux, mais c'est bien tous ces salariés invisibles du commerce qui, à la fin, resteront sur le carreau. Aujourd'hui, c'est 85% de femmes à temps partiel dans le commerce. Et on n'aura jamais des carrières complètes qui nous permettront d'avoir ces fameuses pensions à 1000 euros. On est en train de préparer aujourd'hui des retraités pauvres.
Et vous dites que c'est difficile de se mobiliser dans le secteur.
C'est compliqué de se mobiliser puisque aujourd'hui, même si beaucoup de salariés se mettent en grève dans des boîtes type Leroy Merlin, Conforama, Castorama, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de manger à la fin du mois si on s'arrête. Donc il ne faut pas croire que c'est parce que les salariés ne nous soutiennent pas. C'est juste parce qu'à la fin, on est en précarité alimentaire ou en précarité énergétique qu'on ne peut pas s'arrêter et faire grève.
Gérald Gauthier de la section commerce de FO avec Manuel Ruffez.
Les intempéries en France, attention aux rafales et aux trombes d'eau.
Bref, la tempête. 16 départements toujours en vigilance orange ce matin dans le nord, en Corse, dans le sud-ouest, des habitants évacués notamment dans le Périgord, de l'eau jusque dans les rues de Bayonne. Images impressionnantes. Gabriel Pereira.
De nombreuses routes sont inondées et donc coupées à la circulation ce matin dans les Pyrénées-Atlantiques. La préfecture a d'ailleurs interdit toute manifestation sportive jusqu'à midi et appelle plus généralement les habitants à ne pas se déplacer. Hier, un automobiliste de 72 ans a été tué par la chute d'un arbre près de Saint-Palais et 3 autres conducteurs ont été légèrement blessés dans des circonstances similaires, toujours dans les Pyrénées-Atlantiques. Il faut dire que les rafales de vent ont largement dépassé les 100 km/h. Même chose dans les Landes où un homme de 22 ans a été grièvement blessé, là encore. encore par la chute d'un arbre sur son fourgon. Les Landes, où environ 600 personnes ont été évacuées par précaution dans 8 communes proches du confluent des gaves de Pau et d'Oloron. Un pic de crue est attendu dans la matinée selon la préfecture. La commune de Peyrorade est particulièrement surveillée. Autre conséquence, les coupures de courant. Environ 50 000 foyers concernés cette nuit selon l'opérateur Enedis.
Un des intempéries qui ont déjà fait hier un mort et 5 blessés. Attention aussi aux avalanches dans les Alpes. On fera le point complet sur la météo à la fin de ce journal. Moins de 3 mois après l'incendie, l'usine Lubrizol va partiellement rouvrir dans les jours qui viennent. Le préfet a signé hier l'arrêté d'autorisation. On en reparle dans le journal de 7h30. À peine élu, déjà conspué en Algérie, c'est un ancien premier ministre qui prend la tête du pays, un fidèle de Bouteflika, Abdelmadjid Tebboune, élu hier dès le premier tour. Marée humaine dans le centre d'Alger, dans la foulée, pour dénoncer une parodie de démocratie.
Et une autre élection hier, plus près de nous d'ailleurs, les législatives au Royaume-Uni avec la large victoire de Boris Johnson.
Alors oui, avec la majorité absolue et historique des conservateurs, le premier ministre britannique va pouvoir mettre en place le Brexit d'ici le 30 janvier prochain. S'en suivra de longues négociations avec l'Europe. Mais d'autres questions se posent. Le Royaume restera-t-il uni? Il y a le problème de l'Irlande, bien sûr, mais aussi l'Écosse. Les indépendantistes ont raflé 48 des 59 sièges écossais et réclament un référendum pour couper les ponts avec Londres. Correspondance Antoine Gignot.
D'abord un coup de fil à Nicola Sturgeon et puis des appels à plusieurs responsables politiques conservateurs en Écosse. Boris Johnson a passé la soirée au téléphone, mais face au Premier ministre qui répète sa volonté de renforcer les liens, Nicola Sturgeon, chef de file des indépendantistes et du gouvernement local écossais, répond par un pied de nez.
Le gouvernement écossais va publier la semaine prochaine les documents juridiques détaillés qui permettent le transfert de pouvoir et l'organisation d'un référendum. Nous n'avons pas besoin de la permission de Boris Johnson.
C'est sur le rejet du Brexit que s'appuient les indépendantistes qui espèrent faire mieux qu'en 2014. L'indépendance à l'époque avait été rejetée à 55%, mais ce n'est pas sûr que le rapport de force bascule en leur faveur, explique John Curtis, politologue spécialiste de l'Écosse.
Ce qui va se passer maintenant, c'est très difficile à dire. Les conservateurs ne veulent pas d'un autre référendum sur l'indépendance. Et personne ne sait quelle serait la réponse à ce deuxième référendum. Pour le moment, les sondages donnent 49% en faveur de l'indépendance et 51% seulement pour rester dans l'Union.
Des chiffres serrés qui pourraient évoluer en fonction des négociations entre Londres et Bruxelles et de la future relation commerciale. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Le vrac, c'est chic, surtout pour la planète. En finir avec les sachets dans les magasins, en finir aussi avec les tickets de caisse, interdire encore la destruction de marchandises neuves invendues. Les députés poursuivent l'examen du projet de loi anti-gaspillage et Sandy Dauphin passe en revue pour nous les principales mesures votées hier.
Si mon robot mixeur tombe en panne, est-ce que je peux le réparer? En 2021, les fabricants seront obligés de répondre et de coller un indice de réparabilité sur les produits électriques et électroniques. Aujourd'hui, seuls 40% des pannes sont réparées. Autre mesure contre le tout jetable, interdiction de détruire la marchandise invendue non alimentaire, notamment les produits d'hygiène et de cosmétiques. Jusqu'à présent, les géants comme Amazon justifiaient cette pratique en disant qu'avec le régime de TVA, ça leur coûtait plus cher de donner que de détruire. Un amendement a justement gommé cet écart fiscal. D'autres mesures visent à encourager l'achat de produits alimentaires en vrac. Et pour limiter la consommation de gobelets jetables dans la vente à emporter, un client qui vient avec son thermos ou sa tasse pourra bénéficier d'un tarif préférentiel. La loi veut aussi lutter contre le gaspillage des médicaments. À partir de janvier 2022, les pharmacies pourront délivrer certains comprimés à l'unité. Chaque année, un Français jette 1,5 kg de médicaments.
Enfin, c'est une icône du foot qui préside le jury des Miss France ce soir à Marseille. La joueuse de l'Olympique Lyonnais, Amandine Henry. Et ne lui dites pas que les Miss France, c'est ringard et sexiste. Pour Amandine Henry, non, c'est un concours qui va bien au-delà de la beauté. Aura-t-on droit à une Miss France qui fait du foot, par exemple? Suspense insoutenable, Eric, réponse à 21h ce
Elle
soir.
Elle n'a pas du tout le point de vue donc de Laurent Ruquier. C'était le journal d'Hélène Roussel. Le temps de ce samedi.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des œufs fermiers de poules en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Michel Golinski, retour d'un temps sec au sud de la Garonne.
Ah, c'est la bonne nouvelle du jour, mais pour l'heure quand même, 11 départements du quart sud-ouest restent en vigilance orange cru. La Corse, balayée par de fortes rafales, souvent supérieures à 120 km à l'heure, est également en vigilance orange. De même que les Savoie et l'Isère, en raison du fort risque d'avalanche, d'autant plus qu'il va encore beaucoup neiger. Aujourd'hui, les pluies les plus durables vont survoler les régions centrales, du Poitou-Charente au nord de l'Aquitaine, en allant jusqu'à l'Alsace et le nord de Rhône-Alpes, des précipitations devenant plus fortes ce soir par l'océan. Plus haut du nord de la Loire à la Belgique, un régime d'averse dans un ciel plutôt variable. Et puis sur les régions méridionales, temps dégagé près de la Méditerranée, mais souvent plus chargé sur la Corse et près des Pyrénées, le tout avec toujours pas mal de vent, vers 70 km à l'heure dans l'intérieur, 90 sur les côtes, dans des températures confortables de 10 à 14 degrés cet après-midi dans la moitié nord et de 14 à 18 dans la partie sud.